Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour à tous. Le 13-14 au Généthon aujourd'hui, laboratoire pionnier de la thérapie génique à Évry, près de Paris. La 35e édition du Téléthon commence aujourd'hui avec une nouvelle importante. La thérapie génique, ça marche. On est désormais plus seulement dans la recherche. On est passé au traitement, on soigne, on sauve des vies grâce à la thérapie génique et aux dons du Téléthon. C'est tout cela que nous allons explorer. Première question, premier reportage dans un instant avec une petite fille qui fait des progrès très émouvants dans la marche. Ce sera jusqu'à 14h. D'abord, les autres titres de l'actualité du jour. C'est avec vous, Frédéric Barrère.
Bonjour Bruno, un contrat record, une commande historique. Les Émirats Arabes Unis achètent 80 Rafales à la France, un contrat à 16 milliards d'euros signé lors du déplacement d'Emmanuel Macron à Dubaï. Les Émirats ont également signé un accord pour l'achat de 12 hélicoptères Caracal et pour l'Elysée. Il s'agit d'un aboutissement majeur du partenariat stratégique entre les deux pays. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans à risque, très probablement ouverte dès la mi-décembre, annonce ce matin d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. De son côté, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, en appelle à la responsabilité collective et à la vaccination pour pouvoir passer Noël ensemble. L'hypothèse Pécresse inquiète la Macronie. Emmanuel Macron avait clairement installé le duel avec Xavier Bertrand, et si Valérie Pécresse remporte demain l'investiture du parti Les Républicains pour la présidentielle, la candidate pourrait se révéler plus difficile à contrer. Dans ce journal également, Canal+ fait la paix avec le cinéma français. Notre rendez-vous, arrêt sur audience, comme chaque vendredi, pour suivre le procès des attentats du 13 novembre. Et Kylian Mbappé, star de sa propre BD, Je m'appelle Kylian, avec le dessinateur Faro, nous serons, Bruno, à la séance de dédicace.
Et à la fin de cette émission, après avoir parlé recherche et médecine, une des initiatives pour récolter des dons ce week-end, le Téléthon Gaming, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La 35e édition du Téléthon commence officiellement en fin d'après-midi, mais vous pouvez d'ores et déjà adresser une promesse de don 3637 ou téléthon.fr. Alors il faut bien le dire, la récolte a été moins bonne ces dernières années entre gilets jaunes, Covid et autres événements. Cette année, malgré la cinquième vague, après une édition confinée, le Téléthon et son cortège d'animation et de direct télé et radio reprend son activité en France. À quoi servent les dons? Pour répondre à cette question, le 13-14 est installé aujourd'hui à Évry, au Généthon, laboratoire central dans la thérapie génique en France. Et précisément, pour commencer cette émission, nous sommes dans un labo qui travaille sur une forme de myopathie. Alors pour vous décrire les décors autour de moi, il y a des paillasses, il y a des pipettes, des ordinateurs, des classeurs avec des noms de programmes de recherche, des photos d'enfants soignés. Et à mes côtés, Serge Braun, le directeur scientifique de la FM Téléthon, qu'on entend dans un instant. Et puis Véronique Julia, bonjour Véronique.
Bonjour.
Spécialiste santé de France Inter, vous nous accompagnez pour cette émission. Il y a une très bonne et très importante nouvelle, Véronique, pour poser le décor cette année. Ça y est, la thérapie génique marche.
Et oui, et le pronostic des enfants malades en est déjà transformé. L'avenir pour eux était souvent très sombre. Souvenez-vous des premières éditions du Téléthon. Grâce à la thérapie génique, certains vivent désormais une vie presque normale, ou en tout cas très améliorée. Même si on manque encore de recul, il y a maintenant de l'espoir, une solution. On va le voir justement avec la petite Théa et sa maman Jenna. Je suis allée les rencontrer chez elle cette semaine.
Tu veux marcher ?
Eh, viens, on va montrer à Véronique comment tu marches.
Waouh ! Bravo Théa ! Tu veux qu'on aille là-bas ?
Théa a 2 ans et 3 mois. Un grand frère Lino qui a 4 ans. C'est une petite fille espiègle et pleine de vie. Aujourd'hui, Théa commence à parler. Elle se tient debout, elle joue, elle bricole. Alors elle ne marche pas tout à fait comme une petite fille de son âge, mais elle y arrive quand même en s'accrochant à la main de sa maman et de son papa. Elle va même à la crèche. Il n'y a pas si longtemps, Théa n'aurait sans doute pas vécu plus de quelques années. Elle souffre d'amyotrophie spinale. C'est une maladie rare qui touche les cellules nerveuses qui commandent les muscles, d'où une faiblesse musculaire généralisée. En plein confinement, quand elle avait 9 mois, sa maman, Jenna, s'est rendue compte qu'elle manquait de tonicité, qu'elle tremblait. Le diagnostic est tombé peu après, coup de tonnerre évidemment, mais tout de suite, les médecins ont proposé une solution.
On a pleuré 1 heure et après on est passé à l'action. Et donc voilà, elle a reçu le traitement 3 semaines après le diagnostic. Elle a été reçue du coup au service de réanimation à Trousseau. Il lui pose un cathéter. Et ensuite, ils arrivent avec une toute petite seringue, mais vraiment toute petite. Hein. Et quand on la regarde, on se dit, alors c'est ça qui va changer la vie de ma fille, en fait. Ça met une heure pour que ce produit se diffuse dans son corps.
Une heure pour changer la vie. D'après Jenna, les progrès ont été immédiats.
Au bout de 2 semaines, elle faisait des petits mouvements avec ses jambes qui étaient assez surprenants. Quand on voit ça, on a les larmes aux yeux, on se dit, waouh, finalement, ça marche. Elle était même elle-même impressionnée de ce qu'elle arrivait à faire, en fait. Donc c'est beau.
Alors, comment Théa va-t-elle grandir? On n'a jamais fait de promesses à Jenna et son mari. On manque de recul. On ne leur a pas assuré un succès à 100%. On avance pas à pas, explique sa maman, sans se poser trop de questions. En attendant, Théa devrait faire sa rentrée à l'école maternelle au mois de septembre prochain.
Voilà, Véronique, on vous retrouve un peu plus tard dans cette émission. Bonjour, Serge Braun.
Bonjour.
Vous êtes le directeur scientifique de l'AFM Téléthon. On soigne désormais des maladies rares grâce à la thérapie génique. Depuis quand? Quand a-t-on passé le cap des traitements?
Ça a commencé il y a un peu plus de 20 ans, en fait, avec une maladie très sévère, un déficit immunitaire qu'on appelle bébé bulle.
Oui, les bébé bulles.
Et on a aujourd'hui des enfants qui sont devenus des adultes, qui vivent une vie normale et sont considérés comme guéris. Mais ça n'était que le début et on s'attaque maintenant à des maladies beaucoup plus compliquées, des myopathies, des maladies qui touchent la moitié de la masse musculaire, les muscles et aussi le système nerveux. Et là, on commence à avoir des résultats très spectaculaires.
Et quand on dit on soigne, ça veut dire quoi? On ralentit la maladie? On guérit complètement certains patients?
Alors ça dépend des maladies, on peut arriver à stopper, on peut arriver à améliorer les malades et pour certaines maladies, si on arrive à traiter immédiatement au moment du diagnostic, voire à la naissance, ben c'est des personnes qui vont avoir un développement tout à fait normal.
L'enjeu du diagnostic précoce, on en reparlera, est vraiment un enjeu clé.
Ça devient un enjeu clé maintenant qu'il y a des traitements, justement. Ça l'était un peu moins avant. Évidemment, il faut mettre un doigt sur la maladie pour une prise en charge qui soit la meilleure possible. Mais le traitement, souvent pour ces maladies-là, qui sont des maladies dégénératives, nécessite qu'il soit mis en place très très vite.
Encore une question, et encore une fois, on détaillera tout cela à 13h20. L'importance du Téléthon pour une structure comme celle de Généthon, il dépend à 100% des dons du Téléthon ou pas tout à fait?
À sa création, il dépendait à 100% du Téléthon. Il n'y aurait pas ce laboratoire s'il n'y avait pas eu le Téléthon. Ouais. Et il n'y aurait pas ce laboratoire s'il n'y avait pas eu les malades et les parents de malades pour avoir cette vision de créer leur propre structure, leur propre laboratoire, pour pouvoir d'abord cribler le génome humain. Ça a été les premières étapes au début des années 90, et puis ensuite mettre au point des thérapeutiques. Aujourd'hui, il y a d'autres sources de financement, mais le Téléthon reste un événement clé pour des ressources financières, parce que la recherche a besoin de moyens, ça coûte... Globalement, pour mettre au point un médicament, j'ai l'habitude de dire, ça revient aussi cher que de mettre au point un avion. Pour donner l'ordre de grandeur.
Ah bah voilà une image. On apprendra plein de choses à partir de 13h20 jusqu'à 14h ici au Généthon. Pour l'instant, les autres titres de l'actualité, Frédéric Barrère, direction Dubaï pour commencer.
Oui, avec un contrat historique, une commande ferme, la plus importante jamais signée par Dassault Aviation, la vente de 80 avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis. Après 13 ans de négociations, Emmanuel Macron, lors de son déplacement à Dubaï, a signé ce matin avec le cheikh Mohamed Ben Zayed ce contrat pour une somme qui devrait atteindre 16 milliards d'euros. La vente de 12 hélicoptères Caracal fabriqués par le groupe Airbus a également été conclue. En direct de Dubaï, on retrouve notre envoyé spécial Christian Chéneau. Bonjour Christian.
Bonjour Frédéric.
Et la signature de ces contrats est survenue au premier jour d'une visite express du président français dans le Golfe.
Oui, elle s'est déroulée ce matin sur le site de l'exposition universelle de Dubaï, à l'abri des caméras et de la presse, tenue à l'écart pour l'occasion. Un contrat qui est le signe éclatant de la lune de miel entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Zayed, dit MBZ, l'homme fort des Émirats. Cette vente de Rafale qui fait un peu oublier l'échec des sous-marins australiens. Alors, vous l'avez dit, Frédéric, c'est le plus grand contrat jamais signé à ce jour entre Dassault Aviation et un pays étranger. Pour mémoire, l'Égypte avait acheté 54 Rafales et l'Inde 36 exemplaires. C'est le dernier modèle de Dassault, le Rafale version F4, qui va être livré à Abu Dhabi, qui sera ainsi le premier utilisateur en dehors de l'armée française qui recevra les exemplaires en même temps vers 2026-2027. Pour Airbus Hélicoptère, la vente des 12 Caracals qui seront produits et assemblés sur son site de Marignane, près de Marseille, devrait rapporter 1 milliard d'euros dans les caisses de la compagnie. Enfin, dans ce partenariat militaire et sécuritaire entre Paris et Abu Dhabi, il y a malgré tout une petite touche de culture avec l'extension de l'accord de coopération avec le Louvre. couvrant la période 2037-2047 qui a été conclue pour la somme de 165 millions d'euros. En échange, quatre œuvres emblématiques qui n'ont pas été précisées seront prêtées au Louvre d'Abu Dhabi.
Christian Chéneau avec Éric Audra en direct de Dubaï. Florence Parly, la ministre des Armées, salue un contrat historique et au chapitre politique, une réaction à noter ce matin. Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, déclare que la France nous fait honte, dit-il, quand elle arme des régimes autoritaires qui méprisent les droits humains et dont la richesse s'est bâtie sur les énergies fossiles. On en vient à la cinquième vague de l'épidémie de coronavirus avec un objectif, pouvoir passer Noël ensemble. C'est la boussole, le cap du gouvernement, explique ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Malgré une épidémie fulgurante, 48 416 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures. Et le variant Omicron qui se propage, 9 cas confirmés en France dans 5 régions différentes. Gabriel Attal mise donc sur la dose de rappel et la responsabilité collective pour freiner cette cinquième vague. Il n'est pas prévu pour le gouvernement de changer de stratégie concernant la campagne de vaccination et le pass sanitaire. Et selon les dernières données sur la vaccination contre le coronavirus, le nombre de troisième doses administrées au quotidien ne cesse d'augmenter. Il y a eu hier, par exemple, 616 121 vaccinations au total, dont 495 276 rappels. Et une vaccination qui va sans doute s'élargir pour s'ouvrir très probablement aux enfants de 5 à 11 ans qui souffrent de comorbidité. Une vaccination qui pourrait débuter ce mois-ci à la mi-décembre, annonce ce matin d'Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Aux alentours de la mi-décembre, ensuite le temps que ces vaccins soient conditionnés, puissent être livrés, donc d'ici la fin décembre.
Donc mi-décembre, les enfants de 5-11 ans...
Entre la mi- et la fin décembre, les enfants qui sont atteints, qui sont à risque faire des formes graves.
Et le reste, être vaccinés.
La vaccination leur sera sans doute ouverte. La décision n'a pas été formellement prise, mais enfin, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et sur les enfants de 5 à 11 ans qui ne sont pas à risque de forme grave, la Haute Autorité de Santé ne s'est pas encore prononcée, elle a besoin d'un peu plus de temps pour nous dire si le vaccin est parfaitement sûr et efficace et si la balance bénéfice-risque est positive. Auquel cas, nous ouvrirons la vaccination aux enfants probablement au début du mois de janvier, de façon progressive et facultative.
Voilà, c'est Olivier Véran avec Salia Braquia et Marc Fauvel. Par ailleurs, un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra lundi prochain. En politique, la finale inattendue entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse lors du premier tour au congrès du Parti Les Républicains ne fait peut-être pas les affaires d'Emmanuel Macron. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, est arrivé en tête du premier tour, mais pour le second tour, qui a débuté ce matin jusqu'à demain, 14h, la présidente de la région Île-de-France est favorite. Valérie Pécresse a d'ailleurs déjà reçu le soutien des trois candidats éliminés. Mais voilà, Emmanuel Macron se retrouve face à un nouveau cas de figure. Et Valérie Pécresse, si elle remporte l'investiture demain, pourrait se révéler plus difficile à contrer. Yael Gauz.
Xavier Bertrand versus Emmanuel Macron. La campagne entre ces deux-là avait déjà bien commencé à coups d'images, d'apartés tendus et d'interpellations surjouées. Sauf que ce ne sera pas lui, mais peut-être elle, Valérie Pécresse. Et c'est évidemment plus embêtant pour nous, lâche un intime d'Emmanuel Macron. Il va y avoir de l'intérêt pour elle, sans doute une dynamique, anticipe un ministre. La nouveauté, c'est la carte femme que le camp Pécresse va jouer à fond, car jamais la droite n'a présenté cette modernité. Comment l'aborder? Comment la contrer? Il y a bien eu l'expérience des régionales en juin, mais la liste En Marche, arrivée quatrième, a sombré face à une Valérie Pécresse triomphante. Avec ce bébé Chirac, ancienne ministre expérimentée, soutenue par les sarkozystes, les transferts de voix seront plus compliqués. Car elle aussi, elle parle au CSP+, et aux chefs d'entreprise, et ses attaques sur la dette et ce président qui crame la caisse sont à prendre au sérieux. Les points faibles? L'héritage Fillon. Comment faire avaler la suppression de 200 000 fonctionnaires? S'interroge un conseiller. Comment fera-t-elle cohabiter son libéralisme économique et son conservatisme sociétal. L'Élysée observe, mais Pécresse ou pas, le calendrier reste inchangé. Emmanuel Macron sera de toute façon le dernier à se déclarer.
Et puis concernant le second tour du Congrès Les Républicains, le taux de participation s'élève à 39,2% à midi, alors qu'il s'est levé à 25,4% à la même heure lors du premier tour.
Il est 13h14 sur France Inter, Frédéric Barrère. Canal+ fait la paix avec le cinéma français.
Ouais, Canal et le cinéma sont finalement parvenus à s'entendre en signant un accord prolongeant au moins jusqu'en 2024, un partenariat historique de plus de 30 ans, souligne la filiale de Vivendi. Un accord au terme d'un long bras de fer, principal financeur et diffuseur du 7e art sur le petit écran. Canal+ avait menacé de se retirer, Alexandra Akoun.
En s'engageant à injecter dans l'industrie du cinéma quelques 190 millions d'euros par an pendant 3 ans, la filiale de Vivendi a obtenu d'inscrire dans la nouvelle chronologie des médias, qui devrait être bouclée en début d'année prochaine, les modifications qu'elle souhaitait et tenir ainsi à distance les plateformes étrangères de streaming. L'accord trouvé va en effet permettre à Canal+ de diffuser les films 6 mois après leur sortie en salle, contre 8 actuellement, et d'en garder l'exclusivité pendant 9 mois. Il va surtout contraindre Netflix et consorts à attendre 15 mois avant de pouvoir faire de même. Or, depuis l'entrée en vigueur de la directive SMA qui oblige désormais ces plateformes à participer au financement de la création française, 25% de leur chiffre d'affaires France, toutes voulaient une fenêtre de diffusion à 12 mois contre 36 à l'heure actuelle, pour une enveloppe financière estimée pour le 7e art entre 50 et 80 millions d'euros par an. Premier financeur du cinéma français depuis sa création en 1984, Canal+ s'en reste donc aussi le premier diffuseur, la chaîne ayant bien du mal, côté série, à lutter contre les millions de dollars investis chaque année par les mastodontes américains.
Alexandra Hakoun, Arrêt sur audience, notre rendez-vous chaque vendredi pour suivre le procès des attentats du 13 novembre. Procès ouvert depuis 13 semaines et chaque vendredi, nous revenons sur les audiences au fil de la semaine avec l'une de nos deux envoyées spéciales à la Cour d'assises spéciale de Paris. On retrouve Charlotte Piré. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Avec les enquêteurs belges, toujours à la barre et au fil de leurs auditions, émergent les nombreux ratés qui ont permis que ces attentats aient lieu.
Oui, ces enquêteurs se succèdent, hein, on le rappelle, jusqu'au 9 décembre prochain, toujours en visioconférence, toujours de manière anonyme. Et en creux de ces auditions, effectivement, on découvre les manquements, les ratés. En fait, tous ces moments où peut-être ces attentats auraient pu être déjoués. Alors, c'est toujours facile, hein, de refaire l'histoire a posteriori, mais il y a quand même cette histoire de cet homme revenu d'Irak, arrêté en Belgique, mis en examen pour participation à un groupe terroriste, mais laissé libre, et surtout qui va parvenir à obtenir un passeport. Ce passeport va lui permettre de repartir en Syrie. Va grimper les échelons de l'État islamique et va devenir le commanditaire des attentats du 13 novembre. Pour un autre membre de la cellule, lui avait été soupçonné de s'être rendu en Syrie. Il est auditionné par les enquêteurs belges à son retour. Son téléphone est saisi, mais ce téléphone ne sera analysé que 1 an après les attentats. Et on découvrira à ce moment-là qu'il y avait des conversations avec Abdelhamid Abaoud, lui aussi membre de la cellule qui organise ces attentats-là. Effectivement, tout cela laisse un goût très amer, particulièrement pour les parties civiles, hein, qui suivent ces audiences ici aussi.
Alors, autre moment fort que vous retenez de l'audience, Charlotte, c'est la diffusion de 2 enregistrements audio de l'un des principaux organisateurs des attentats.
Oui, cet homme, c'est Ibrahim El Bakraoui. Avec son frère, ils ont été les logisticiens en chef, on peut dire, de ces attentats du 13 novembre. Ils ont ensuite été kamikazes à Bruxelles et Zaventem, donc dans les attentats du 22 mars 2016. Et ce qu'on a entendu, donc, c'est la voix d'Ibrahim El Bakraoui qui enregistre une sorte de testament audio juste avant d'aller se faire exploser à Bruxelles. On l'entend d'une voix qui est avec des termes qui sont entrecoupés d'incantations en arabe. On l'entend appeler à combattre les koufars dans leur terre, combattez-les par tous les moyens, dit il prenait une grenade, tirait leur dessus, prenait un couteau, égorgeait l'air, renversait l'en voiture, etc. Le ton est véritable donné et puis la voix est très calme finalement et c'est un côté particulièrement glaçant que d'entendre cet homme qui va, après avoir organisé les attentats du 13 novembre, participer à ceux du 22 mars, s'exprimer ainsi très calmement et de manière finalement très banale pour des propos aussi graves.
Charlotte Piré avec Yvan Turc. Merci. Et comme chaque vendredi sur les réseaux sociaux de France Inter, vous pouvez retrouver le résumé des audiences en vidéo. J'ajoute au chapitre justice que le téléphone sonne ce soir de Claire Servageon reviendra sur le cri d'alarme des magistrats. Pourquoi un tel malaise dans la justice? Au téléphone sonne donc ce soir. Une profusion de poulpes s'attaque aux coquilles Saint-Jacques, des poulpes qui envahissent le littoral et à Noël sur la table du réveillon. La coquille Saint-Jacques pourrait bien être rare. La météo, mais aussi les prédateurs menacent les coquilles Saint-Jacques et autour des Glénans, le poulpe fait des ravages dans les gisements de noix de Saint-Jacques. Résultat, les poissonniers sont inquiets. Stéphane Salin est poissonnier à Quimper.
Ça s'annonce pas terrible, terrible, parce qu'il n'y a pas de pêche. Ils ont fait des essais, là, et ils pêchent des coquilles, mais les coquilles sont vides. Hein. Donc, il y a une quantité énorme de poulpes. Moi, je ne sais pas combien de tonnage il y a sous l'eau, mais ça devient inquiétant. Hein, parce que, bon, bah, en plus, ce n'est pas que pour cette année, même si cette année, on n'en a pas, mais c'est pour les années suivantes, on n'est pas sûr d'en avoir. Hein, donc, ça va créer un gros, gros problème pour la ressource. Hein. On attend de voir dans les prochains jours qu'est-ce qu'ils vont pêcher. Mais bon, là, il y a eu le premier jour de pêche hier à Concarneau ce matin, à Souquier. On n'avait aucune coquille Saint-Jacques. C'est pas sûr, ils vont faire 1 ou 2 jours de pêche, et s'ils pêchent pas plus, s'il n'y en a pas, bah, ils vont arrêter. Hein. Nous, on travaille un peu avec la baie de Seine parce qu'il y a un petit peu plus là-bas. On essaye d'en trouver sur Quiberon, on essaye d'en trouver ailleurs. Quoi. Il faut bien qu'on se débrouille pour vendre de la coquille Saint-Jacques à nos clients. Hein.
Stéphane Salin avec Marine Klein, Glet de France Bleu, Braise Izel. Et on termine avec Mbappé, version BD. La star du PSG raconte sa vie sous la forme d'un long roman graphique. Je m'appelle Kylian, une bande dessinée autobiographique avec le dessinateur Faro. L'histoire d'un rêve, celui de la Coupe du Monde. Et Kylian Mbappé, dédicacé hier soir à la Fnac des Ternes à Paris, sa BD, une séance d'une heure et demie pour 150 petits chanceux qui ont pu repartir avec leur livre signé, bien sûr, certains très intimidé de rencontrer en vrai la star du foot français, Alexandre Vaux.
Assis derrière une table dans un espace sécurisé au dernier étage du magasin, Kylian Mbappé, sweat violet, casquette noire, a le sourire et un petit mot pour chacun.
Bonjour, ça va ?
Liam, 11 ans, casquette du PSG vissée sur la tête, a encore du mal à réaliser.
Ça fait un très grand plaisir de le voir. C'était un moment que j'ai jamais oublié dans ma vie.
Chacun leur tour, les personnes s'avancent avec leur livre à faire signer et repartent aussi avec une photo sur leur téléphone. Elsa est aux anges.
Mais complètement fan, j'ai mon cœur qui fait boum boum. C'est un bon modèle. Tous les jeunes, on l'a vu là à l'extérieur devant la Fnac et ils sont tous en train de courir en disant c'est Kylian, ils ont entre 6 et 10 ans et c'est leur idole.
C'est pour cela que Kylian Mbappé a choisi le roman graphique accessible à tous selon lui.
Je pense que les enfants, ils aiment quand c'est illustré, ils aiment que ça leur corresponde, ils peuvent s'identifier à ce genre de choses. Après les adultes aussi peuvent lire. Hein.
Une bande dessinée autobiographique avec quelques messages à faire passer.
Il faut toujours suivre son rêve et toujours croire en ses. J'étais pas un enfant facile, j'étais pas différent sur ce point-là. Mais ouais, c'est vrai que j'en ai fait vivre de toutes les couleurs, on va dire.
Comme désormais aux défenseurs sur les terrains du monde entier.
Voilà, je m'appelle Kylian avec le dessinateur Faro. BD sortie le 11 novembre. Une dernière information, Bruno. Lamine Diack, l'ancien patron de l'athlétisme mondial, est mort. Il avait été reconnu coupable l'an dernier de corruption passive pour le versement de pots de vin par des athlètes russes. Lamine Diack est mort à Dakar. Il avait 88 ans.
C'était le journal de Frédéric Barrère sur France Inter. Dans un instant, la météo, puis le 13-14 consacré à la thérapie génique, alors que le 35e Téléthon se tient ce week-end.
La CARAC se bat pour moi. La CARAC est une mutuelle d'épargne solide et engagée qui défend mes intérêts. Sur la plupart des produits d'épargne, la CARAC ne prend aucun frais sur mes versements. 0%. En faisant le choix d'investissement responsable, la CARAC donne du sens à mon épargne. Et mon conseiller expert CARAC est toujours à mon écoute. Voilà pourquoi je suis à la CARAC.
Retrouvez les conditions d'adhésion sur carac.fr. CARAC, engagé pour l'avenir de votre patrimoine. Mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
France Inter aime.
Le diable n'existe pas, du cinéaste iranien Mohammad Rasoulof. Ours d'or au Festival de Berlin. En Iran, quatre histoires d'hommes et de femmes qui se battent pour affirmer leur liberté dans un régime despotique. Trouveront-ils la force de désobéir ? Le diable n'existe pas. Actuellement au cinéma, un film France Inter.
Et on se retrouve dans un instant à Évry au Généthon, laboratoire pionnier pour la thérapie génique en ce week-end de Téléthon. On reproche souvent aux médias de n'annoncer que de mauvaises nouvelles. Ici, l'alliance de la générosité des donateurs et du talent des chercheurs permet de sauver des vies. Il n'y a pas que le Covid. La recherche contre les maladies rares est importante aussi. D'ailleurs, il y a des mots, des processus que l'on retrouve dans les deux cas. C'est tout cela que nous allons explorer jusqu'à 14h. C'est passionnant, vous allez voir. D'abord, le temps de ce jour.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Élodie Calac, quelle est la tendance du jour ?
On a une perturbation de la Bretagne et de l'Aquitaine vers le bassin parisien et le nord de la Seine avec des pluies, du vent marqué. Du massif central au nord-est, avant les pluies, on peut avoir quelques chutes de neige ou un peu de pluie et de neige mêlée. Sur les Alpes et en Méditerranée, c'est du soleil avec toujours du vent autour de la Méditerranée jusqu'à 70 km à l'heure. Il fait froid sur une grande partie du pays, Bruno, 2 à 7 degrés, mais ça se radoucit sur la façade ouest avec 9 à 14 degrés, comme en Méditerranée. Et puis pour le week-end, ça s'annonce agité. De la pluie et du vent demain, de la neige en montagne et dimanche à nouveau une baisse des températures.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Il est 13h24, vous connaissez les références alors que nous en sommes à la 35e édition du Téléthon. Elle commence ce soir. D'ores et déjà, vous pouvez adresser vos promesses de dons au 36-37 par téléphone ou sur téléthon.fr. Nous sommes donc installés au Généthon, centre de recherche sur la thérapie génique à Évry, en banlieue parisienne. Ici, dans les différents laboratoires et bureaux, travaillent quelques 220 personnes. Et autour de la table, à mes côtés, Frédéric Réva, directeur général de Généthon. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Serge Braun, bonjour, que nous avons déjà, avec qui nous avons déjà discuté tout à l'heure, directeur scientifique de la FM Téléthon. Et Anna Buchbello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'équipe maladies neuromusculaires à Généthon. Également avec moi, Véronique Julia, spécialiste des questions de santé à France Inter. Frédéric Réva, le Généthon travaille donc sur les maladies rares. Qu'appelle-t-on une maladie rare ?
Alors, une maladie rare, par définition, c'est une maladie qui va toucher moins d'une personne sur 2000.
Oui.
Ce qui veut dire qu'en France, ça peut être jusqu'à 30 000 personnes, mais ça peut être aussi quelques personnes, une poignée de patients. Au niveau mondial, ces maladies rares, c'est 350 millions de malades. Oui. En France, c'est 3 millions. En Europe, c'est 30 millions.
Donc, mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup de monde.
Oui, ça fait beaucoup de monde parce que ces maladies sont nombreuses. Il y en a 7 à 8 000. Et elles ont toutes une caractéristique commune, c'est qu'elles sont toutes d'origine génétique. Alors quand on dit toutes, plus de 80% d'entre elles sont d'origine génétique. Alors à partir de cette caractéristique, nous avons développé ici, et ça a été véritablement la vision des créateurs de Généthon en 1990, nous avons développé une approche qui va essayer de corriger les mutations des gènes qui sont touchés dans ces maladies génétiques, et c'est ce qu'on appelle la thérapie génique, puisqu'on va traiter par les gènes.
Et globalement, Serge Braun, quand on parle de maladies rares, quels organes, quelles fonctions sont touchés ?
Les maladies rares peuvent toucher n'importe quel organe, ouais. N'importe quelle fonction. Nous, enfin, le principe de la vie, c'est l'utilisation de gènes. Les cellules utilisent un code, des instructions, ouais. Pour assembler des protéines. On a plus de 20 000 gènes qui permettent à nos cellules d'exister et de fonctionner. Et il y a des maladies rattachées, pour ainsi dire, à chacun de ces gènes. Donc on en connaît effectivement 7 à 8 000, il y en a peut-être probablement davantage liées chacune à ces gènes.
Anna Buchbello, prenons l'exemple d'une des maladies sur lesquelles vous travaillez, la myopathie myotubulaire. Alors d'abord, c'est quoi et ça représente combien de malades ?
Donc la myopathie myotubulaire est une maladie génétique qui touche environ 1 sur 50 000 garçons nouveau-nés. Elle se manifeste par une faiblesse musculaire généralisée, c'est-à-dire ouais. qu'elle affecte tous les muscles squelettiques de l'organisme. Ces enfants ne peuvent pas respirer par eux-mêmes, parce qu'il nous faut quand même des muscles pour pouvoir respirer, donc ils ont besoin d'une ventilation artificielle pour pouvoir vivre. De plus, ils ne peuvent pas tenir assis, tenir la tête, se lever. C'est vraiment une maladie extrêmement sévère, avec un pronostic très sévère. On sait qu'à peu près 50% d'entre eux décèdent avant l'âge de 2 ans.
C'est ça aussi, Serge Braun, quand on parle des maladies rares, on parle de maladies qui sont fatales, je crois, dans la moitié des cas.
Oui, 2/3 touchent les enfants et la moitié sont mortels.
Et toutes les familles, au bout d'un moment, par le jeu des descendances, des mutations, au fond, toutes les familles peuvent être touchées assez vite à un certain nombre de générations.
Oui, en fait, on entend parler d'un terme qui s'appelle variant, hein, les virus oui. font des mutations.
Ben, premier mot qu'on entend dans le cadre du Covid, on en retrouvera plein. Hein.
Et nous sommes des variants, c'est-à-dire ouais. que nous avons plein de mutations génétiques dans notre génome, ce qui fait que nous sommes tous un petit peu différents les uns des autres. Et lorsque ces mutations, ces variants touchent des parties non essentielles, il ne se passe rien, on est juste un petit peu différent. Mais lorsque ça touche des parties essentielles, des gènes importants, ça peut provoquer des maladies. Et donc, statistiquement, on a plusieurs dizaines de gènes potentiellement responsables de maladies génétiques. Et donc, sur 3-4 générations, n'importe quelle famille sera touché.
Voilà, 3 millions de patients en France, sur 3-4 générations, n'importe quelle famille touchée. On parle bien de quelque chose qui concerne tout le monde. On le disait avec Serge Braun en ouverture de ce 13-14, Frédéric Réva, le diagnostic, l'importance du diagnostic, par définition, puisque ce sont des maladies génétiques, ça touche des enfants, il faut un diagnostic le plus précoce possible avant que la maladie s'installe et ne dégénère.
Oui, à partir du moment où on dispose d'un traitement, et c'est le cas maintenant pour un certain nombre de ces maladies, il est important de pouvoir diagnostiquer la maladie le plus tôt possible, de mettre un nom, d'identifier le gène pour pouvoir administrer le traitement, parce que plus on tarde, plus la maladie s'installe et on a une maladie qui est dégénérative.
Véronique, Julien.
Donc en fait, ce serait un test sur la goutte de sang comme on le fait pour d'autres maladies à la naissance, à la sortie de la maternité, on peut imaginer ça ?
Oui, c'est un test d'ADN, donc il peut se faire sur une goutte de sang, sur un petit échantillon à l'intérieur de la joue. Bref, il y a de nombreuses méthodes. Identifier aujourd'hui une mutation, c'est relativement simple.
Alors venons-en à la thérapie génique, Serge Brand. Je vais vous exposer mon maigre savoir et vous allez corriger mes bêtises. À l'origine de la maladie, il y a donc un gène qui dysfonctionne.
Oui.
Une cellule, pour fonctionner, va chercher de l'information dans l'ADN. L'ADN, c'est 20 000 gènes. Vous nous le disiez, des milliers, des milliards d'informations, comme une bibliothèque. Au fond, à l'origine de la maladie, c'est quoi? Des erreurs de copie?
Oui, parce que l'ADN, pour fonctionner, fait des copies, comme des photocopies. Chaque gène va être copié plusieurs fois. Il va être pris en charge par la cellule. En fait, il est copié sous forme d'ARN. Ça, c'est un terme aussi qu'on
encore
connaît
un.
Bien. C'est l'ARN messager.
Ouais.
Et cet ARN, c'est un message que la cellule va utiliser pour assembler des protéines. Voilà, ça, c'est le principe de la vie.
Ouais. En fait,
toute la vie fonctionne selon ce principe-là.
Et nous avons un gène défectueux dans le cadre d'une maladie génétique.
Voilà, donc lorsqu'un gène ne fonctionne pas bien, soit l'ARN est absent, il n'est pas fabriqué, soit il est complètement tronqué, il ne va pas être efficace. Du coup, les protéines ne sont pas fabriquées. Et à ce moment-là, c'est la maladie liée au dysfonctionnement de ces protéines.
Anna Buchbello, c'est facile de repérer un gène défectueux? Comment fait-on? J'imagine qu'on part des symptômes.
Il y a tout un processus, ouais, évidemment, pour pouvoir diagnostiquer une maladie génétique. Il y a les symptômes. Il y a donc quand on pense qu'il s'agit d'une maladie génétique, ce qu'on va faire, c'est ce que font les médecins, c'est essayer de trouver la mutation dans le gène. Donc pour ça, on va séquencer les gènes potentiellement, qui peuvent potentiellement causer cette maladie. À partir de là, des mutations sont identifiées.
Alors continuons sur les définitions. Principe de la thérapie génique, c'est quoi? C'est de remplacer le gène qui ne marche pas?
Voilà, c'est exactement ça. C'est un principe très simple, c'est-à-dire qu'il s'agit de remplacer le gène défectueux par une copie non défectueuse, sans défaut, de ce gène. Alors, le principe est très simple. La mise en œuvre, elle est extrêmement compliquée,
oui,
parce que pour faire rentrer ce gène dans les cellules malades, au cœur des cellules malades, eh bien, il va falloir les coupler à un transporteur. Et ce transporteur, qu'est-ce que c'est? En réalité, ce transporteur, ce sont des particules de toute petite taille qu'on va synthétiser au laboratoire. Quand je dis de toute petite taille, c'est des millionièmes de millimètres. Hein. Mm-hmm. Vous imaginez ça? Et ces particules, elles sont constituées de composantes de virus, parce qu'on va exploiter cette capacité qu'ont les virus à transporter de l'ADN.
C'est les meilleurs véhicules.
Ce sont aujourd'hui les meilleurs véhicules. Et donc, il va s'agir au laboratoire, de construire ce médicament très complexe, qui est le plus complexe de l'ensemble des médicaments qui existent, entre un gène médicament et le transporteur qui va permettre de le cibler dans les cellules malades.
Le gène médicament, on va le chercher où?
Alors le gène médicament, en réalité, on le synthétise. Ça, c'est des choses qu'on sait faire de manière relativement simple depuis quelques dizaines d'années. Hein. C'est la biologie génétique, la biologie moléculaire qui nous permet de faire
donc
ça.
Donc on ne va pas le chercher dans le corps, on le fabrique à l'extérieur,
non,
si
je veux dire. Ouais. On le fabrique de la même manière. Ces particules, on les fabrique, mais on ne les fabrique pas par les méthodes de la chimie, hein, que l'industrie pharmaceutique connaît depuis la fin du 19e siècle,
ouais,
mais on les fabrique par des méthodes de la biotechnologie. À nouveau, on va utiliser les cellules vivantes qui vont nous permettre, cultivées en laboratoire, qui vont nous permettre d'assembler à la fois ce gène et ses particules. Et c'est donc de la biotechnologie poussée jusqu'à ses limites.
Encore un mot qu'on retrouve dans le Covid, vous êtes une biotech au fond, le généton.
Oui, oui, on peut dire qu'on est une biotech, absolument. Mais on a une particularité, c'est qu'on est une biotech créée par une association de malades, la FM Téléthon, et à but non lucratif.
Alors continuons sur la thérapie génique, Serge Brand. Ce véhicule avec un tout petit peu de virus, est-ce qu'on le programme très précisément pour qu'il aille à un endroit précis, pour éviter éventuellement qu'il fasse des dégâts ailleurs? Il est programmé comme une sorte de petit missile?
Alors parfois oui. En fait, on utilise la propriété initiale de ces virus, parce qu'il y a des virus qui vont infecter, parce que c'est le terme pour les virus, hein, oui, qui vont infecter tel ou tel organe, tel ou tel tissu. Donc on va utiliser ces propriétés-là, c'est notamment à la surface de ces particules, à la surface de ces virus, il y a des protéines comme la protéine S qu'utilise le coronavirus.
La spike.
La protéine spike. Donc les virus ont des protéines comme ça et qui vont lui permettre d'aller par exemple dans les muscles, par exemple dans le système nerveux, dans le cœur, dans le foie.
Pour soigner les différentes maladies.
Voilà.
Ça veut dire que chaque cellule doit être traitée?
Alors pour des maladies génétiques, c'est préférable.
Et quand on parle, Anna Buchbello, de maladies musculaires, ça veut dire qu'il y a une quantité de matériel génétique à transporter et à mobiliser vraiment très importante.
En effet, La musculature squelettique représente à peu près 40% de la masse corporelle, donc ça fait beaucoup de muscles et beaucoup de cellules à corriger. Et donc ça fait une grande quantité de vecteurs médicaments à apporter par voie sanguine.
Est-ce que ça explique, Frédéric Réva, que pour les traitements, on est commencé par des organes petits, les yeux, puis le foie, avant de passer justement à des organes plus complexes comme les muscles ?
Oui, absolument. C'est tout à fait ça. On a commencé par les yeux, parce que là, la quantité de vecteurs médicaments à délivrer est relativement faible. Ouais. Dans une zone très circonscrite, et puis progressivement vers des organes plus grands. Et en réalité, les maladies musculaires pour lesquelles on commence à avoir des résultats, on a parlé de la petite TA tout à l'heure dans le reportage, eh bien, ce sont les maladies les plus complexes, justement, du fait du nombre de cellules qu'il y a à corriger, et puis de la grande complexité de ces maladies musculaires qui sont pas simplement des maladies dégénératives du muscle, mais qui ont aussi des composantes immunitaires, et donc et d'autres. Et véritablement là, on est sur les plus compliquées des maladies. Et aujourd'hui, on a des essais cliniques dans ces maladies.
Avant de repartir en reportage avec Véronique Julien, encore un mot-clé et mot commun avec le Covid. ARN messager, ça intervient dans la thérapie génique, Serge Brown ?
Oui, c'est une forme de thérapie génique qui existe depuis une vingtaine d'années. En fait, ça explique d'ailleurs pourquoi les vaccins Covid sont arrivés aussi vite. En réalité, ils surfent sur une technologie qui a été éprouvée sur des maladies rares. Mmh. Il y a des médicaments à base d'ARN, il y en a à peu près une quinzaine. Alors, l'ARN existe sous différentes formes. Hein. Il y a des médicaments pour des maladies rares essentiellement qui sont reconnus par les agences de santé en Europe et aux États-Unis, notamment pour une myopathie, la myopathie du chêne et d'autres.
Et donc la recherche sur les maladies rares a bien des applications plus larges ensuite. Véronique Julien, on vous retrouve pour mener ces recherches. Ben, il faut des banques d'ADN. Vous êtes allée voir ça de plus près.
Oui, pour comprendre justement les mutations génétiques qui sont en jeu dans les maladies rares et même dans les cancers. Hein, pour les identifier, on récupère un peu partout l'ADN des malades qui viennent d'être diagnostiqués, ADN des malades mais aussi de leur famille. Ce sera ensuite un outil précieux pour les chercheurs. Ici au Généton, il y a donc une banque d'ADN. Les ADN sont conservés dans des petites ampoules plongées dans des grandes cuve d'azote liquide. Il y en a 15 ici en tout, répartis dans une grande salle très sécurisée. Visite guidée avec la responsable de cette banque d'ADN, elle s'appelle Safa Sakardeli.
Ici, notre mission, c'est collecter les prélèvements des familles atteintes des maladies génétiques pour après les donner aux chercheurs selon leur projet de recherche. Depuis 30 ans, on a plus de 88 000 patients dans cette banque. On est la plus grande banque européenne pour les maladies génétiques rares.
Concrètement, vous conservez comment les cellules de ces patients ?
On va les concentrer, on va les mettre dans des petits tubes, des petites ampoules, et on va les plonger dans l'azote liquide.
Vous pouvez nous montrer où c'est stocké ?
Oui, bien sûr, oui. On va vous montrer le coffre-fort de notre banque. Oui.
On arrive dans une salle où il y a des cuves d'azote liquide avec tous les tubes à essai qui contiennent donc les cellules des patients. Là, vous ouvrez donc la cuve d'azote liquide.
Oui, j'ouvre. Je cherche.
Évidemment, avec l'azote, on n'y voit rien. Voilà.
Ah oui. Oui.
C'est quelle température ?
C'est moins 196 degrés. Voilà, ils sont là, tous ces tubes de nos patients. Tous nos échantillons sont codés de façon anonyme. On n'a que des codes, des numéros et le code pathologie.
Il y en a combien d'échantillons dans cette cuve ?
On en a 30 000.
Voilà. Sachant que dans la pièce, il y a une dizaine de cuves. Hein.
Il y en a 14.
14.
Vous êtes dans une petite pièce, à la mine de rien, mais c'est vraiment très, très, très sécurisé.
Voilà pour cette cuve très, très impressionnante. Vous vouliez ajouter un mot, Véronique ?
Non.
Alors, nous sommes toujours avec Frédéric Réva, directeur général de Généton, Serge Brown, directeur scientifique de la FM Téléthon, et Anna Buchbello, responsable de l'équipe maladie neuromusculaire à Généton. Quel résultat pour la thérapie génique, Frédéric Réva ? Qu'est-ce qu'on soigne aujourd'hui ? Et soigner, ça veut dire quoi ? On en a dit un mot avec Serge Brown tout à l'heure, mais c'est tellement important qu'il faut y revenir.
Alors, aujourd'hui, le nombre de malades atteints de maladies génétiques qui sont éligibles à la thérapie génique, soit à travers des médicaments qui existent déjà sur le marché, soit à travers les essais cliniques, c'est plusieurs dizaines de milliers.
Dizaines de milliers.
Plusieurs dizaines de milliers de malades. Alors, aujourd'hui, il y a un médicament sur le marché pour traiter une maladie extrêmement grave du muscle, la myotrophie spinale infantile, une maladie pour laquelle les enfants ne lèvent jamais la tête, ne se redressent jamais dans leur lit, ne peuvent pas respirer de manière autonome et vont mourir dans 95% avant l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, il y a un traitement. La petite Victoire, qui est ambassadrice du Téléthon cette année, à 2 ans, eh bien, elle fait ses premiers pas. Voilà un premier
traitement
exemple.
Sous quelle forme ?
Alors, c'est une infusion. C'est une infusion qui va durer environ 1 heure et demie, oui, dans un milieu hospitalier, 4 jours d'hospitalisation. Et puis ensuite...
Infusion, ça veut dire quoi ?
Alors, perfusion.
Perfusion, d'accord.
Voilà, une perfusion suivie de quelques jours d'hospitalisation. Et puis ensuite, l'enfant va être suivi régulièrement par les médecins. Et donc, aujourd'hui, on a des enfants qui récupèrent des fonctions qu'ils n'auraient jamais dû avoir.
Une seule perfusion.
Alors, c'est ça qui est intéressant avec la thérapie génique, hein, c'est qu'a priori, une seule administration suffit, c'est comme une greffe. Alors le temps va nous dire exactement combien de temps, quelle est la durée de l'effet. Mais par exemple pour les enfants atteints de les bébés bulles, hein, oui, qui ont été traités il y a 20 ans, il n'y a pas eu besoin de réinjection. Mais ça c'est aussi un axe sur lequel on travaille ici, essayer de comprendre s'il va falloir réinjecter un jour et comment on va faire.
Les bébés bulles, encore un nom qui va résonner en ces temps de Covid, c'est notamment le professeur Alain Fischer qui a beaucoup travaillé sur ce sujet.
Exactement.
Lui qui dirige aujourd'hui la stratégie vaccinale. Véronique Julia, question.
Oui, on a vu dans le reportage, hein, on ne dit pas aux parents, c'est 100% de réussite absolue, c'est-à-dire qu'apparemment les parents de Théa, on leur a parlé de 20 à 80% de réussite, donc la fourchette est quand même extrêmement large. Donc c'est quoi un petit peu les retours que vous avez ? Parce qu'on parle des enfants sur qui ça marche très bien, il y en a d'autres où ça marche peut-être un petit peu moins bien. Et quand ça marche pas bien, est-ce qu'on peut imaginer faire une deuxième injection ou non ? Est-ce qu'on fait une injection pour la vie ou on peut reproduire l'injection plus tard ?
Alors, la réponse dépend de la pathologie. Hein. Dans le cadre de la pathologie de Théa, plus on traite tôt, plus les effets sont importants. Puisqu'on a une maladie progressive qui progresse de manière très rapide, il s'agit de bloquer les effets le plus tôt possible. Et là, c'est là que le diagnostic est très important. Hein. Le diagnostic dès la naissance est très important, puisqu'on a là un traitement qui est très efficace quand on traite les enfants tôt et quand
mais,
on les traite.
Mais est-ce que la réussite dépend d'un enfant à l'autre ? Ça peut évoluer, même s'ils sont au même stade
L'élément le plus déterminant, c'est véritablement le stade d'intervention. Voilà. Maintenant, pour d'autres maladies comme celle comme le traitement qui a été découvert mis au point par Anna Buchbello pour une myopathie qui s'appelle la myopathie myotubulaire, là, pour le coup, nous avons des effets qui sont réversibles. C'est-à-dire que la maladie n'est pas une maladie où le muscle dégénère, mais on va pouvoir, et on le voit sur le petit Jules, hein, qu'on va voir le Téléthon, le petit Jules, aujourd'hui, bah, vous le verrez rentrer, j'espère, sur le plateau, en faisant du vélo. Et ça, c'est quelque chose d'absolument...
On a corrigé la dégradation.
On a corrigé la dégradation. On a corrigé chez lui la dégradation.
Serge Braun.
Oui, sur la question de la réadministration, ça, c'est une question qui est également très importante. Il est possible qu'on ait besoin de réadministrer pour prolonger l'effet ou pour l'améliorer. Là, on se heurte à une difficulté puisque ce sont des particules qui portent des protéines de type virus, donc qui sont des corps étrangers pour l'organisme. On va en quelque sorte vacciner contre ces particules, vacciner contre ces virus. Donc on ne peut pas réinjecter. Malgré tout, il y a des possibilités de contrecarrer ce problème, soit par des traitements immunosuppresseurs, comme on le fait pour les greffes, puisqu'au fond, c'est une forme de greffe. Hein. On va greffer une information qui est portée par quelque chose qui est étranger à l'organisme, soit en modifiant ce que l'on va injecter. Ça peut être des particules de nature différente qui n'ont jusqu'à présent pas été vues par l'organisme et à ce moment-là, on peut réintervenir. Donc ça fait partie des recherches qui sont en cours pour un certain nombre de maladies.
Donc c'est pas inimaginable de refaire une injection ?
Non, c'est pas inimaginable. On sait le faire au stade expérimental et ça sera porté un jour sous forme d'essai clinique, ça c'est certain.
À propos d'essai clinique, Anna Buchbello, vous conduisez un essai clinique. Expliquez-nous comment ça se passe et à quel stade vous en êtes, sur quelle maladie ?
Donc à Généton, on a travaillé pendant 8 ans sur le développement d'un vecteur médicament pour la myopathie myotubulaire. Donc comme on disait, c'est un vecteur qui contient une copie saine du gène MTM1, qui est le gène qui est absolument nécessaire pour les muscles et donc qui est absolument nécessaire chez ces enfants atteints de myopathie myotubulaire. Ces travaux ont permis de démarrer un essai clinique international et un enfant a été traité ici en France avec ce vecteur médicament.
Comment va-t-il ?
Donc c'est un enfant qui, avant le traitement, ne pouvait pas respirer sans ventilateur. C'est un enfant qui ne pouvait pas tenir la tête, qui ne pouvait pas tenir assis, donc qui avait une faiblesse musculaire généralisée. Maintenant, après une simple et unique injection de ce vecteur médicament par voie intraveineuse, il est capable de tenir assis, il est capable de parler, il est capable de respirer par lui-même, il est capable de faire du vélo, comme disait Monsieur Repas.
C'est le fameux petit Jules.
C'est le fameux petit Jules. Ouais.
Essai clinique, donc, on peut imaginer une mise sur le marché. À quelle échéance? Ça prend combien de temps?
Ça prend du temps, ça dépend de chaque essai clinique, ça dépend des résultats évidemment. C'est un processus long. Dans le cadre de la myopathie multifocale, on en est à l'essai clinique, on en est à l'attente de résultats pour pouvoir plus tard peut-être arriver à une mise sur le marché.
Pardon, on parle science-médecine, mais on a tous vu les images du Téléthon et de ses enfants dans des fauteuils roulants. C'est bouleversant, ce petit garçon qui va arriver en vélo ce soir.
C'est extrêmement bouleversant, c'est le travail de nombreuses années de travail, de soutien aussi de l'AFM Téléthon, le travail de toutes les équipes d'ici à Généthon, d'autres équipes aussi qui nous ont aidés. Donc c'est vraiment extrêmement bouleversant et c'est vraiment pour nous un aboutissement après de longues années de travail et on est très content qu'on puisse faire avancer et progresser la médecine.
Serge Brand, vous qui dirigez l'AFM Téléthon, on est tous masqués là pour cette émission, mais je vous vois réagir quand même quand on parle du petit Jules derrière le masque.
Oui, parce que je me souviens du premier moment où l'ensemble des chercheurs, de tout le personnel de Généthon a découvert les premières images qui avaient été transmises par les parents du petit Jules, où on le voyait progresser déjà. Et je peux témoigner, tout le monde pleurait.
Ah bah j'imagine, oui. Véronique Julia, autre exemple d'essai clinique qui concerne une maladie du foie, le syndrome de Crigler-Najjar.
Oui, c'est une maladie très, très, très rare. Elle touche une personne sur 1 million à la naissance. Elle concerne en tout et pour tout une vingtaine de familles en France. Elle vient d'un défaut au niveau du foie. Il manque à ses patients une molécule capable de détruire un pigment biliaire qu'on appelle la bilirubine. La bilirubine, c'est un déchet qui est très toxique. Normalement, le corps la rejette. Mais chez ces malades, comme il manque cette molécule capable de la dégrader, la bilirubine s'accumule. Les patients ont la peau jaune. À long terme, ils risquent des complications au cerveau. On est allé voir dans son laboratoire Fanny Colo, qui est chercheuse au Généthon. Grâce au travail de recherche de l'équipe qui s'occupe ici des maladies du foie, un essai clinique a pu démarrer en 2018.
Il est assez fréquent que les bébés naissent avec une jaunisse, parce que le foie n'est pas encore assez mature pour éliminer la bilirubine, justement. Et chez ces malades, la jaunisse ne disparaît pas. Et donc, très vite, on soupçonne un défaut génétique. Alors, il n'y a pas de traitement. La seule chose que les patients peuvent avoir pour limiter le taux de bilirubine dans leur organisme, c'est la photothérapie. Donc, c'est les mêmes lampes qui sont utilisées chez les bébés. Et chez l'adulte, c'est entre 10-14 heures par jour de lampes de photothérapie. Donc, c'est dormir nu sous ces lampes qui chauffent. Donc, voilà, c'est vraiment très, très contraignant. Et puis, on a développé un vecteur de thérapie génique qui cible le foie. Donc, en fait, le vecteur entre au niveau des cellules du foie, délivre le matériel génétique qui vient tout simplement dire au foie des malades de reproduire à nouveau l'enzyme qui leur manquait pour éliminer la bilirubine. Et puis les résultats ont été vraiment très, très intéressants et on a pu convaincre les agences du médicament pour démarrer un essai clinique chez l'homme.
Il a démarré quand et combien de personnes sont concernées?
Alors cet essai, il a démarré en décembre 2018. Il va concerner en tout 17 patients. Et pour l'instant, on a un patient français, un patient hollandais et 3 patients italiens qui ont été inclus dans cet essai. Donc j'avais juste une petite diapositive pour vous montrer les premiers résultats. Et vous voyez si l'efficacité a été transitoire avec la première dose où on voit les taux de bilirubine qui commencent à remonter. Avec la dose la plus forte, le taux de bilirubine reste vraiment très très bas. En tout cas, ne provoque plus du tout de jaunisse. Et ces personnes qui ont toujours subi des regards un petit peu en coin, ou se dire ces personnes sont vraiment très jaunes, le fait d'un seul coup d'avoir une peau rose et un œil blanc, alors voilà, on ne sait pas, ça reste un essai clinique, on ne sait pas combien de temps, combien de patients vont agir de la même façon. On ne va pas s'emballer, on ne veut pas non plus...
Alors là, les 20 familles françaises, elles attendent, j'imagine, les résultats avec une immense impatience.
Ben, c'est vrai qu'on se connaît personnellement. C'est ce qui est à la fois très enrichissant quand on est chercheur et qu'on arrive à Généthon. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas médecin, donc normalement on n'imagine pas qu'on a un contact direct avec les malades. Et puis ben, en fait, c'est ce qui fait la force de cette structure aussi. Très vite, on apprend à se connaître, on se côtoie. Et puis c'est ce qui met de la pression aussi, parce qu'ils ont tellement d'attentes. Et quand on arrive à l'essai clinique, c'est vrai que pour nous chercheurs, c'est vraiment... Le Graal, j'allais dire, puisque c'est des années de recherche qui aboutissent enfin à un essai. Mais c'est le début de l'aventure pour les malades. Si tout va bien, l'essai clinique, ça montre que le médicament fonctionne. Et puis après, il faut aller jusqu'à la commercialisation de ce médicament.
Serge Brand, qui finance les essais cliniques? Là, on parle d'un essai clinique pour une vingtaine de patients à peine. Ça a un coût phénoménal. Vous nous disiez tout à l'heure, développer un médicament, c'est le coût d'un programme d'avion. Qui finance et à quel moment vous laissez la main et comment vous trouvez des partenaires?
Alors parfois, nous finançons complètement et parfois on ne peut pas parce qu'on ne peut malheureusement pas tout faire. Il y a actuellement...
On a une idée du coût d'un essai clinique comme celui qu'on vient d'évoquer là avec Véronique?
Alors en moyenne, on dit c'est quelques dizaines de milliers d'euros par patient, mais il y a toutes les structures aux alentours. Donc globalement, un essai dit de phase 1, ça on entend parler aussi au moment des vaccins, c'est quelques millions d'euros. Ensuite, on passe à des essais de plus grande ampleur et ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros.
Et donc les partenariats, comment ça se passe? Donc alors, certaines fois, vous nous dites on finance nous-mêmes et dans d'autres cas?
Dans d'autres cas, on cofinance ou c'est un partenaire qui peut être un partenaire public, un partenaire privé, des biotech ou des start-up qui sont créées grâce à ces recherches d'ailleurs. Mmh. On crée des start-up et qui lèvent des fonds qui ensuite leur permettent de lancer les essais cliniques. Donc c'est des partenariats avec des industriels.
Et qui acceptent donc, j'imagine Frédéric Révac, les certains labos pharmaceutiques doivent être réticents à se lancer dans des recherches aussi coûteuses pour aussi peu de patients.
Oui, c'est une question très importante que vous abordez là. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de partenaires industriels. J'ai envie de dire pour les plus fréquentes des maladies rares. Pour certaines, on a parlé d'amyotrophie spinale de type 1, par exemple, qui est parmi les maladies rares une des plus fréquentes. Là, on trouve des partenaires. Maintenant, pour ces maladies très rares et qui sont très nombreuses. Il est plus compliqué de trouver des partenaires et donc la charge de ces essais pèse sur nous et là notre capacité à intervenir financièrement étant limitée, c'est véritablement une complexité pour nous.
Encore un mot Serge Brand avant de vous présenter notre dernier invité, thérapie génique et cancer, où en est-on?
En fait, plus de 60% des essais thérapie génique aujourd'hui, il y a pratiquement 2000 essais thérapie génique cette année, concernent le cancer. Le point de départ, ça a été une maladie rare, on en a parlé tout à l'heure, la maladie des bébés bulles. C'est Alain Fischer qui avait d'ailleurs développé une thérapeutique qui consistait à corriger des cellules de la moelle osseuse dans cette maladie.
Mais qui touchait les globules blancs.
Voilà, on traite en fait les globules blancs, et les globules blancs ce sont les médiateurs de notre système immunitaire. Ouais. Et on peut armer ces globules blancs contre des tumeurs, on peut les armer génétiquement, et c'est par les mêmes techniques qu'on arme aujourd'hui des globules blancs de patients atteints de cancer contre différents types de cancers, des cancers du sang et des tumeurs solides.
On en est au stade quoi? Des essais cliniques où il y a des cancers qui se soignent de cette manière?
Il y a 7 médicaments de thérapie génique qui... aujourd'hui sont enregistrés pour un certain nombre de cancers et qui s'appuient sur cette technologie qui avait été développée au départ pour les bébés bulles.
Bonjour Laetitia Ouyad.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes patiente experte de la FM Téléthon. Vous souffrez vous-même d'amyotrophie spinale. Ça veut dire quoi, patiente experte?
C'est une formation qu'on passe pour être habilité à représenter les patients, que ce soit dans des congrès, dans des conférences, mais aussi dans des groupes de travail.
Et ça veut dire que vous suivez, les articles scientifiques, que vous vous tenez vraiment au courant de la recherche pour à la fois comprendre votre maladie et puis aller au-delà?
Oui, c'est totalement ça. Il faut arriver à être au courant de sa maladie d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue patient, c'est-à-dire être à la rencontre des autres malades pour arriver à comprendre leurs besoins et aussi leurs attentes.
Un mot de votre maladie à vous, elle a été diagnostiquée quand? C'est une maladie qui touche les cellules nerveuses qui commandent les muscles. Vous l'avez appris ou ça a été diagnostiqué quand?
Alors moi, le diagnostic, mes parents l'ont eu à 15 mois.
Vous aviez 15 mois?
Moi j'ai la chance. J'ai une sœur jumelle qui n'est pas atteinte, puisqu'on était des fausses jumelles. Et mes parents ont commencé à avoir des doutes aux alentours de 15 mois, puisque ma sœur courait partout et moi non. Ce qui fait qu'ils se sont posés des questions, ils ont été voir un pédiatre qui les a renvoyés vers un neuropédiatre et le diagnostic a été posé.
Aujourd'hui, vous bénéficiez d'un traitement qui vous apporte quoi ?
Alors du coup, moi, j'ai commencé par un essai clinique qui était dans un centre financé par la FM Téléthon et créé par la FM Téléthon qui est iMotion à Paris.
Oui.
Et du coup, c'est un traitement qui a pour but de ralentir l'évolution de la maladie puisqu'on est quand même dans une maladie qui dégrade au fur et à mesure la santé, mais aussi, si possible, la stabiliser et voir gagner un petit peu.
Et vous gagnez notamment en respiration, si j'ai bien compris, oui. C'est ça ? Ça fait partie de ce que vous gagnez ?
Oui, c'est vraiment là où j'ai vu quand même des effets, ce qui est plutôt agréable.
J'imagine. Anna Buchbello, quel lien avec les patients et les familles avez-vous ? Comment ça se passe ? Comment les tenir informés ? Comment ça se passe de ce point de vue-là, votre travail ? Est-ce que vous avez un lien suivi avec les familles ?
Évidemment, ici à Généthon, on est en lien direct.
Qui avec... était donc fondé par des familles de malades,
voilà,
on rappelle.
En lien direct, voilà,
avec c'est vraiment la particularité ici.
Tout à fait. Donc on est en contact direct avec les patients. C'est extrêmement motivant pour nous, pour les chercheurs. Donc on les voit, on discute avec eux, ça nous motive. Ils comprennent aussi mieux les avancées qu'on a dans les laboratoires. Et puis c'est vraiment un travail main dans la main, je dirais, entre chercheurs et malades.
Comment informe-t-on, Frédéric Réval, les patients sur des sujets aussi complexes que celui-ci ?
Écoutez, vous seriez étonné de voir à quel point les patients connaissent la maladie, connaissent l'environnement, connaissent les recherches. L'AFM joue un rôle important, ouais. À travers l'ensemble de ses organes d'information, de son site, de l'ensemble de des brochures qu'elle met à la disposition, et puis des groupes d'intérêt aussi qui sont créés autour d'un grand nombre de maladies par l'AFM. Et donc on a face à nous, sur ces maladies-là, des patients qui sont particulièrement bien informés.
Laetitia, on vous a demandé de venir pour une autre raison. Le Téléthon, c'est tout un tas d'initiatives pour récolter des dons, 3637téléthon.fr. Vous êtes gameuse.
Oui.
Depuis quand ?
Depuis très longtemps, j'ai eu ma première console, j'avais 5-6 ans.
Et aujourd'hui encore, vous jouez quoi, plusieurs heures par jour ?
Oui.
Et donc, se tient ce soir le Téléthon Gaming. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ?
Le Téléthon Gaming, c'est une initiative qui s'inscrit dans le Téléthon Digital, donc avec une volonté d'aller sur les réseaux, viser un autre type de public, ceux qui ne regardent pas forcément la télé.
Oui.
Et au sein, c'est vraiment de réunir tous les gens qu'on appelle les streamers, ces personnes qui jouent aux jeux vidéo en ligne et partagent leurs jeux vidéo en ligne avec leur communauté. Et donc leur proposer d'en faire une initiative pour le Téléthon, pour remonter des dons pour le Téléthon.
Et donc ça se passe notamment sur la plateforme Twitch. Il y a eu une soirée d'inauguration les 5 et 6 novembre. En fait, c'est un vaste marathon qui a été lancé à ce moment-là il y a un mois. Des joueurs connus ou pas connus jouent en ligne, donc sur la plateforme Twitch, et appellent aux dons. Et au bout de 30 heures de jeu, ils ont récolté, vous avez une idée
120 000 euros.
120 000 euros. Petit extrait, parce que c'est une ambiance très particulière, les récoltes d'argent via les gamers. Petit extrait sonore de la soirée des 5 et 6 novembre.
Oh, je suis fatigué, j'ai donné le maximum, j'ai plus de voix, merci mille fois à toute la team, ça fait plaisir, on a tout donné, on n'a rien lâché et on est là.
Et on est là et ils continuent de donner, ils continuent d'être motivés, c'est impressionnant quand même.
Bien sûr. Bien sûr.
On est à 96 000, ça se rapproche, 96 245, les gars, on n'est pas loin.
Voilà, c'est une autre illustration de ce qui se passe pour le Téléthon et de ce qui se passera ce week-end. Et donc là, ils en étaient à 96 000, on en est à 120 000. Et il y a une soirée, ce soir encore, il y a une nuit de récolte de dons, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Et ça sera du coup en direct sur France 2 de minuit et demi à 2h du matin.
Voilà, France 2 et Twitch. Et c'est l'ami Samuel Etienne qui opérera, qui animera cette soirée. Serge Brand, un dernier mot, on arrive au terme de cette émission. 35e édition du Téléthon. Il y a de l'espoir de plus en plus au fil des années.
Moi, j'ai grandi avec le Téléthon. J'étais un tout jeune chercheur qui recevait quelques financements d'une petite association qui s'appelait l'AFM. Puis est arrivé le Téléthon et j'ai vécu toute cette histoire. C'est l'histoire de la médecine qui s'est écrite ici, hein, entre le génome, les thérapies qui arrivent. Et on parlait de recherche, de compréhension, puis d'espoir. Et maintenant, on parle de réalité. Mmh. Et on va même plus loin. On parle de révolution de la médecine. Et la révolution de la médecine, c'est ici qu'elle a commencé.
Et Laetitia, c'est important pour vous, ce rendez-vous tous les ans avec le Téléthon ?
Oui, c'est important. C'est aussi là qu'on voit, ben, en tant que bénévole, qu'on n'est pas là pour rien. On voit les victoires, on les voit à la télé. Et alors, du coup, nous, avec la multiphyspinale, cette année, on a la chance d'avoir victoire. qui représente la thérapie génique et du coup cette possibilité pour les enfants de pouvoir vivre une vie qui va être plus accessible, disons, et avec moins d'handicap en tout cas.
Le petit Jules, la petite Victoire, on va terminer sur l'image de ces deux enfants. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, La Terre au carré.